Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors, Actes chapitre 16, verset 1er. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière « Passe en Macédoine, secours-nous ». Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Voilà, que le Seigneur nous bénisse à travers cette méditation, cette explication de l'Évangile ce soir. Je remarque que Dieu appelle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, diversement. Et il y a trois manières, il y en a bien d'autres, mais trois manières dans le texte que nous avons lu il y a un instant, où Dieu va appeler des hommes ou des femmes. Et nous voyons que le premier cas qui nous est présenté, je le présente tout de suite en introduction, c'est d'abord un jeune homme qui est recommandé, il s'appelle Timothée. C'est un appel de Dieu. Il y a également dans le deuxième paragraphe, Paul va avoir une vision. C'est un Macédonien, donc un païen, qui va apparaître en vision à Paul et qui va lui faire cette demande « Viens vers nous et secours-nous ». Et ça ne va pas être seulement un Macédonien, mais il va y avoir toute une région qui va être évangélisée. C'est la première colonie européenne qui va connaître le témoignage de l'Évangile. Et puis la troisième manière dont Dieu va user, c'est une femme dont Dieu tout simplement va changer le cœur et va lui ouvrir l'esprit. Alors on pourrait dire que dans tous les cas c'est comme ça. La conversion d'un homme, la découverte d'une personne, découverte de Dieu d'une personne, eh bien passe, et je le rappelle ce soir, par la foi au fond de notre cœur, dans cette entente et dans cette écoute de cette parole qui suscite la foi, qui nous amène à une prise de conscience de notre vie sans Dieu, donc nécessairement une repentance, ensuite un choix de vie, suivre Jésus, pas suivre une religion, mais suivre Jésus, et ensuite aboutissement de tout cela, eh bien c'est une vie nouvelle, une nouvelle naissance. Bon, ça, ce sont des choses. Ce sont des lieux communs de l'Évangile. Mais j'aimerais justement donner quelques témoignages sur ces trois paragraphes, où il nous est montré d'une manière tout à fait particulière la manière dont Dieu, eh bien, agit, et je le répète, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous voyons qu'il s'agit des évangélistes, Paul, et puis de ses compagnons. Alors, il se rend dans les villes de Derbe et de Lystre, et puis il y a là un disciple qui s'appelle Timothée. Il nous a donné un peu ses origines, et probablement un jeune homme. Et nous voyons que ce jeune Timothée, eh bien, a quelque chose de particulier. Il a entendu l'Évangile, il croit dans son cœur, il a certainement nécessairement fait une expérience, parce qu'il nous est simplement rappelé que les chrétiens du lieu rendaient de lui un bon témoignage. Savons que Paul n'aurait pas été plus loin s'il n'y avait pas eu finalement cette affirmation de tous ceux qui le connaissaient, ce garçon, et de pouvoir finalement dire à Paul qu'il y avait là une recommandation sur sa vie. Et peut-être certains pensaient qu'il y avait peut-être autre chose. D'ailleurs, ça va se révéler par la suite, puisque nous savons qu'il va y avoir une amitié, qu'il va y avoir un lien très très fort, affectif, entre Paul et Timothée, puisque Paul le considérera comme son fils spirituel. Et puis dans l'autre sens, eh bien, Timothée reconnaîtra Paul comme son père spirituel. Mais nous voyons que c'est quand même assez particulier dans ce témoignage qui est rendu, et il est bon de le souligner ce soir, c'est qu'à partir du moment où Paul a entendu ce témoignage qui était rendu de Timothée, eh bien, il nous est dit simplement au verset 3, il nous est dit qu'il a voulu l'emmener avec lui. Alors on connaît le caractère de Timothée, c'était un garçon assez timoré, vraisemblablement timide, puisque dans un autre texte, il nous est parlé des encouragements et puis des paroles finalement de fermeté de Paul pour qu'il puisse véritablement trouver dans sa personnalité et puis dans ce qu'il va avoir à réaliser puisque Dieu l'appelle. Il y a au départ, je l'ai dit, je le répète, un témoignage favorable, mais après il va y avoir naturellement toute une vocation qui va s'en suivre. Alors Paul a voulu l'emmener avec lui, alors il l'a pris. Et puis il a fait ce qui était nécessaire pour ne pas choquer tous ceux qui décriaient la liberté que Paul avait en Christ. Vous savez, il le dira plus loin d'ailleurs dans un autre passage des Galates. Alors il va faire pour que les choses soient ainsi. Et puis voilà donc, le périple se poursuit. On sait que l'apôtre Paul a été avant tout un évangéliste. C'était un homme qui a prêché la parole de Dieu en itinérance. Alors il est passé par les villes et à ce moment-là, il recommandait à toutes les églises ou les groupuscules de chrétiens qui se trouvaient là, là, d'observer ce qui avait été dit et annoncé dans la structuration de l'église naissante, et en particulier des principes, toutes sortes de choses. Et puis, nous voyons que dans la suite, il nous est dit que les églises se fortifiaient, elles se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Alors, c'est vrai que c'est certainement quelque chose à retenir pour les temps qui sont les nôtres, de pouvoir observer que les églises se fortifient dans la foi, et la foi ne va pas sans la paix, et la foi et la paix ne vont pas sans l'unité. Je crois que ça, c'est un critère absolu. Une église ou une communauté où il y a des dissensions, où il y a des querelles et des disputes, est vouée à disparaître et à mourir. Rien ne se fera. Alors je crois que ce mot générique dans la foi, ça naturellement augure tout le reste. Et c'est une leçon que nous pouvons retenir, parce que le fruit de tout cela, c'est que l'Église augmentait de jour en jour. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, et de le rappeler certainement à juste raison ce soir, c'est que quelque part, les gens qui entendent le message de l'Évangile, ceux qui viennent à la connaissance de Jésus-Christ, qui s'ouvrent, qui ouvrent leur cœur et leur vie à la dimension du royaume de Dieu, s'ils quittent le monde avec ses disputes, avec ses querelles, avec ses désunions, avec ses divorces, avec tout ce que vous voudrez, c'est pas pour trouver dans l'Église la même chose. On est tout à fait d'accord là-dessus, parce que l'Église doit être avant tout un havre de paix, là où les gens se guérissent, là où les gens sont traités, là où les gens peuvent trouver au moins le repos, comme Jésus l'a promis, quand il dira, et je le répète, au risque de le dire encore, mais Jésus a bien appelé les hommes en disant « Mais vous tous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Alors l'Église, c'est tout ça. Et puis, nous voyons que, en allant encore un peu plus loin, ça c'est pour le disciple recommandé, donc Timothée, et il va suivre Paul, et toutes les choses, tout cela va partir sur la recommandation des autres, la recommandation de tous ceux qu'il connaissait bien. Et ça, c'est quelque chose d'important. Le pouvoir, eh bien, c'est vrai, quand il y a quelque chose de confié, de pouvoir avoir la recommandation. Et puis, un peu plus loin, nous voyons que Paul a continué ses pérégrinations. Et il nous est dit que dans son chemin faisant, il a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Alors il a traversé différentes provinces, la Phrygie, la Galatie. Ça, c'est quand même curieux parce que ce qui nous interpelle, c'est que Paul a été appelé à annoncer l'Évangile. Et là, c'est précisément l'Esprit de Dieu qui va l'empêcher. On pourrait dire, mais tout est permis et tout est autorisé à ce moment-là, puisque on sait très bien les paroles fortes, les paroles que Dieu a adressées à Paul, d'évangéliser, de faire connaître, d'ouvrir finalement des provinces, d'ouvrir des pays, et de faire connaître au plus grand nombre, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, c'est quand même assez curieux, parce que ce que nous pensons n'est pas forcément ce que Dieu pense. Vous savez, comme le dit le prophète Ésaïe dans le chapitre 53, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ou vos voix ne sont pas mes voix. » Alors ça, c'est aussi quelque chose que nous connaissons bien. Et là, l'apôtre Paul aurait pu être déconcerté, puisque comment a-t-il pu sentir, comment a-t-il pu être averti qu'il était empêché, d'empêcher par le Saint-Esprit d'annoncer la parole, puisque c'était pour ça, c'était sa vocation, et c'était ainsi que Dieu l'avait appelé. Alors, il est arrivé dans une autre région qui s'appelle la Mysie, et tout à nouveau, lui et ses compagnons, puisque c'est au pluriel, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais encore une fois de plus, il nous est bien donné cette parole, mais l'Esprit de Jésus ne lui permit pas. Alors c'est décourageant, parce que on pourrait se dire, voilà, j'avance et toutes les portes se ferment. Et avec, finalement, les plus belles et les plus nobles intentions, c'est-à-dire d'annoncer l'Évangile. Comment se fait-il que je veux aller dans un endroit, la porte est fermée, je vais dans un autre endroit, la porte est fermée, et tout ça authentiquement et authentifié par la conduite de l'Esprit. C'est quand même assez curieux, parce que je crois que quand on se trouve devant des circonstances semblables, et je le dis et je le répète avec les meilleures intentions, avec la plus belle des vocations, c'est que Dieu a quelque chose d'autre à nous donner. Il y a des portes qui se ferment pour que d'autres s'ouvrent, on est bien d'accord. Parce que ça donne aussi à celui qui est envoyé, eh bien, cette souplesse et cette flexibilité entre les mains de Dieu pour nous conduire comme lui veut et non pas selon nos propres pensées. Et je pense que l'apôtre Paul a dû s'interroger en disant, mais pourtant, l'Asie, la Phrygie, la Galatie, ce sont quand même des pays qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Ce sont des pays païens, ils ne connaissent pas, ils sont encore dans leur sauvagerie ou dans leur paganisme. Alors ça, c'est vrai, quelquefois, on ne peut pas comprendre les choses. Mais moi, je crois que il y a toujours un temps de Dieu pour l'accomplissement de sa volonté. Il y a des temps où les choses sont pas mûres, tout simplement. Et visiblement, ça devait être le cas. Alors il s'est dit, il n'est pas été pris au dépourvu, il s'est dit, ben, on va aller autre part. Et le voilà arrivé, finalement, dans les contrées de la Mysie et de la Bithynie. Et tout à nouveau, voilà encore une intervention divine. Il nous est dit l'Esprit de Jésus, qui l'a tout simplement, eh bien, ne lui a pas permis. Alors ça, c'est quand même, en effet, déconcertant, puisque si c'était pour faire des choses indifférentes de la vie, on pourrait dire, bon, c'est pas le plan. Mais là, quand on est dans le plan, et que le but, hein, c'est que les hommes connaissent la vérité et qu'ils parviennent au salut, alors c'est vrai que c'est quand même assez... Mais les choses nous sont consignées pour nous montrer que c'est encore Dieu qui conduit, c'est lui qui dirige toutes choses. Alors, le chroniqueur du livre des Actes que nous connaissons, eh bien, poursuit, il dit, ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Alors, quand vous regardez une carte, hein, jusqu'ici, ils n'avaient pas fait grand-chose, puisque tout était quelque part fermé, tout était interdit, on pourrait dire. Et ils se sont retrouvés à Troas, c'est-à-dire que, si vous regardez la Turquie actuelle, vous vous trouvez en face, finalement, de la mer. Alors, quand allez évangéliser les poissons? À défaut des hommes, on ne peut pas aller plus loin. Hein. Ici, à Saint-Nazaire, quand vous êtes sur le front de mer, vous pouvez toujours Oui, vous pouvez marcher sur la plage, mais après, il faut que vous sachiez soit nager, ou alors que vous ayez la capacité de marcher sur les eaux pour aller de l'autre côté. Donc, la mer est une frontière. Et c'est ce qui se passe. Ils arrivent dans cette situation, et ils se disent, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous fassions maintenant? Alors, on retourne en arrière, on va à droite ou on va à gauche. Ce sont des situations qui sont arrivées très souvent dans l'histoire biblique. Regardez Moïse. Quand il quitte avec un peuple entier, il n'était pas tout seul, et qu'il se trouve devant la mer Rouge, qu'est-ce que nous faisons, Seigneur? Nous allons à droite, nous allons à gauche, et devant nous, on ne peut pas aller plus loin. Alors ça, c'est un sujet de perplexité. Mais pour Dieu, si c'est pour nous un sujet de perplexité, pour Dieu, ce n'est jamais un sujet de perplexité ou de questionnement, puisque lui a toujours les réponses. Et c'est souvent lorsque nous nous trouvons devant une situation, on pourrait dire un mur, une muraille, devant une montagne, Dieu a une réponse à tout cela. Alors, ils se sont trouvés là. Et dans la nuit même, il nous est dit que, on en a parlé dimanche dernier, Paul eut une vision. Humainement parlant, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il attendait que Dieu lui donne une information, qu'il lui donne une mission ou un ordre de marche. Et là, Dieu va lui parler. Et il va l'avoir sous cette forme surnaturelle de cette révélation divine, surnaturelle. Et à ce moment-là, dans cette vision, il va voir un Macédonien qui lui apparaît. Et dans ce contexte surnaturel, cet homme qui lui apparaît lui parle, et dans le caractère même d'une prière, c'est une supplication, c'est une demande instante, et il va entendre, il va en tous les cas percevoir le message, « Passe en Macédoine et secours-nous ». Parce que la Macédoine, c'était en face. Mais entre là, Troas, où se trouvait Paul, et en face, il y avait la mer. Et il y avait besoin, Paul avait besoin d'avoir cet ordre de Dieu, pas l'ordre des hommes, pas la recommandation comme ça avait été fait pour Timothée, mais quelque chose qui venait de supérieur, une révélation donc d'en haut, pour savoir ce qu'il avait à faire, et de pouvoir obtempérer à cette, avec conviction, avec certitude, à ce qu'il avait reçu, puisque les choses sont formulées d'une manière très claire. Pas besoin d'un grand discours, c'est tout simplement « passe en Macédoine », et puis alors à ce moment-là, « secours-nous ». Et ce mot « secours-nous » a une signification tout à fait particulière, puisque nous le comprenons non pas dans un secours matériel ou un secours quelconque, je ne sais quoi, mais dans un secours spirituel. Ça veut dire que de l'autre côté de la mer, en Macédoine, à travers cette image qui apparaît, eh bien, il y a tout un peuple. Il y a un monde qui soupire et qui attend après la révélation de la volonté de Dieu pour le salut. La révélation de Jésus-Christ. La révélation de celui que Dieu a donné pour le salut, non pas des Juifs seulement, mais des hommes, dans tous les peuples, de toute langue, de toute couleur, de toutes les origines. Et c'est la première mission, c'est les premiers pas à l'évangélisation du monde, c'est-à-dire hors du contexte de l'Asie mineure. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que ce sont les premiers textes. Et quand il nous est parlé, et le livre que nous avons ouvert, qui s'appelle le livre des actes des apôtres, on pourrait le traduire, eh bien, de cette manière, c'est le livre des actions de Dieu à travers les hommes, et pour les hommes. Donc, nous voyons qu'il y a le message. Alors, Paul comprend, il réalise, et nous est dit tout simplement parce qu'il y a là, eh bien, finalement, une relation très étroite, entre la foi et l'obéissance. Puisque la suite, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ils avaient compris. Ils ne sont pas passés des jours et des jours en disant « Seigneur, nous allons prier encore. Nous allons jeûner. Tu vas nous révéler plus précisément ce que nous avons à faire. » Non. Après cette vision, nous cherchâmes aussitôt. Je crois que ce qui doit caractériser finalement notre foi, c'est l'action. Et beaucoup de choses parfois restent à l'état latent, dans l'inertie, parce que nous voulons en faire plus que ce que Dieu nous demande. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de croire et d'obéir, tout simplement. Et il a suffi Pourtant, de ce contexte surnaturel qui n'est pas forcément toujours très codable, hein, pour nous les hommes, mais de comprendre et de réaliser à ce moment-là qu'il y avait quelque chose à faire, nous cherchâmes aussitôt. C'est-à-dire qu'ils se sont, ils ont fait marcher leur intelligence. Il ne s'agissait plus d'une révélation, la révélation avait été donnée. Mais après, Dieu les a laissés justement agir. Et ce qu'ils avaient compris au fond de leur cœur, c'est que ils vont s'engager dans la foi, et à partir du moment où ils vont avoir compris, avoir saisi et commencer à agir, mais Dieu va leur ouvrir les moyens d'atteindre ce but. Et c'est ça ce qui est important. Je crois que nous avons vraiment besoin de réaliser, et pour ceux peut-être qui découvrent l'Évangile encore aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où Dieu nous a parlé, il crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est-à-dire qu'un chemin a été ouvert, il suffit tout simplement de rentrer dans ce chemin. Et ils en ont conclu que le Seigneur nous appelait, pourquoi faire ? Pour faire du tourisme de l'autre côté ? Pour rencontrer des gens sympathiques ? Certainement qu'il pouvait y avoir tout cela à la fois, mais ce n'était pas le but. C'était pour tout simplement y annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et là, ils l'ont bien compris. Alors ils se sont mis en route et il nous est donné le récit de leur traversée, de leur périple sur cette partie de la Méditerranée. Étant partis de Troas, ils ont réuni certainement les moyens, les fonds, ils ont trouvé un bateau. Ils ont certainement fait ce qui était nécessaire, c'est-à-dire que derrière l'action spirituelle, il y a une action de bon sens pratique. Et c'est ça ce que les hommes ont besoin aujourd'hui. C'est que si nous restons en regardant le ciel, en disant « Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi encore », ben, le Seigneur ne nous parlera plus. Il va nous dire, mais je t'ai déjà parlé. Je t'ai déjà dit ce qu'il faut faire. Parce que c'est le test de notre foi et de notre obéissance à ce moment-là. Et c'est ce qui concrétise, finalement, ce que nous avons compris et notre désir de rentrer dans ce plan. Alors, nous fîmes voile directement vers Samothrace, c'est-à-dire le port d'en face. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Et voilà que la nouvelle aventure commence. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est en avançant que Dieu bénit. C'est pas en restant statique, c'est pas en restant en stationnement, ou sur le bord du chemin, ou en regardant en arrière, c'est en marchant. Alors, ils ont marché, et de là, nous allâmes à Philippe, qui est la ville principale, qui a donné une formidable épître, qui a été écrite par Paul, situation qui n'a pas toujours été facile pour Paul de vivre, mais il y a annoncé l'Évangile. Il nous est dit qu'il est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Et là, il va se passer encore un nouveau miracle. Le miracle de la grâce de Dieu. Parce que, qui fait suite à cette vision du Macédonien, il n'a pas vu la femme qui va arriver. Mais elle fait partie de ce monde-là. Et que ce soit elle, ou que ce soit ses concitoyens ou que ses compatriotes, finalement, c'était la raison de la vision. Et quand Dieu nous dit une chose, c'est qu'il ne va pas manquer de l'accomplir. Et c'est ça ce qui est exaltant et ce qui est formidable, c'est que quand Dieu, dans sa volonté, lui, va nous conduire pas à pas, nous allons le suivre en quelque sorte, parce qu'il marche devant nous. Ce n'est pas nous qui marchons devant lui, mais nous le suivons. Alors, à ce moment-là, il nous est bien précisé que le jour du sabbat, un jour, nous nous rendîmes hors de la porte de la ville vers une villière où nous pensions que se trouvait une réunion de prière. Il s'était dit, je ne sais pas comment il avait eu connaissance, qu'il pouvait y avoir des rassemblements de gens qui priaient dans un contexte épouvantablement païen. Mais dans un contexte peut-être où il y avait une colonie, puisqu'il nous a dit que c'était une colonie, donc on peut peut-être penser qu'il y avait forcément une colonie juive, mais une colonie romaine, mais une colonie juive aussi. Donc ils se sont présentés de cette manière, et ils ont trouvé un lieu de prière, et à ce moment-là, ils ont trouvé des gens, en l'occurrence des femmes qui étaient assises. Alors ils ont parlé avec elles, elles étaient réunies là, et voilà le troisième miracle qui va se produire, après Timothée, après cette vision, c'est la concrétisation finalement à travers le salut de cette femme, et il y en aura bien d'autres après. Nous en faisons partie, nous les Européens, en quelque sorte, parce que ça commençait par là. L'une d'elles, dont nous avons le nom, qui s'est immortalisée par l'Écriture sainte, Elle était commerçante, marchande de pourpre dans la ville de Thyatire. C'était une femme qui craignait Dieu et elle écoutait. Pourquoi elle et pas les autres? Il nous est parlé de femmes au pluriel. Il y a une personne dans ce nombre-là qui va être interpellée profondément par ce que Paul va annoncer. Il nous est dit qu'elle craignait Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que moi je crois qu'encore aujourd'hui, dans notre monde, dans notre pays, dans tous les pays du monde, quelles que soient les origines, quels que soient les États, enfin les États que l'on soit, ceci ou cela, peu importe. Une chose qui est certaine, et je crois que ça peut nous ramener au souvenir de ce que nous étions auparavant avant de connaître le Seigneur, c'est qu'il y a des dispositions dans notre cœur de crainte de Dieu. Vous connaissez ce fameux centenier romain dont il nous est parlé au chapitre 10, toujours du même livre des Actes des Apôtres. Il nous est dit qu'il craignait Dieu, lui aussi. Il s'appelait Corneille. Ouais. Les craignants Dieu. Et les craignants Dieu, ils sont innombrables autour de nous. Quelle que soit leur religion, quelle que soit leur condition, quelle que soit leur origine, peu importe, hein, blanc, noir, de toutes les couleurs, peu importe. Hein, mais ils ont ce respect, ils ont cette crainte, ils ont cette aspiration et cette recherche, finalement, de Dieu. Et ça, je crois que, même dans cette ville de Saint-Nazaire, dans toute cette région, il y a des craignants Dieu, qu'ils soient, excusez-moi, hein, d'origine catholique, protestante, d'une façon ou d'une autre, ils ont ce respect, ils se disent... Ce n'est pas possible que nous soyons sur cette terre, dans ce monde, et qu'il n'y ait pas, par-delà la vision matérialiste qui est la nôtre, qu'il n'y ait pas au-dessus de tout cela, eh bien, quelque chose, et je dirais peut-être beaucoup plus précisément, quelqu'un. Une dimension spirituelle. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant de le prendre en considération, parce que le monde, les hommes, l'humanité n'est pas une grande machine qui a été remontée, qui continue comme ça à fonctionner, on ne sait pas où elle va. Mais c'est avant tout, eh bien, le processus de la création de Dieu. Et de la manifestation non seulement de la création de Dieu, mais d'une disposition d'amour pour les hommes, pour les sauver. Et ça, c'est autre chose. Donc, il y a des gens qui perçoivent, même déjà quelquefois tout petits, ou peut-être dans le cours de leur vie, à travers les circonstances de leur existence, le bonheur ou le malheur, plus souvent dans le malheur, où les gens commencent à réfléchir, que quelquefois dans le bonheur, où souvent, eh bien, les gens sont tellement frivoles qu'ils se disent « Dieu n'existe pas ». Et ça, c'est justement la caractéristique de ces craignants Dieu, comme Lydie. Elle craignait Dieu. Comment elle aurait pu l'expliquer? Elle devait probablement, eh bien, certainement avoir la foi. Une foi éclairée avec le peu de lumière qui lui avait été donnée. Mais ça commence toujours comme ça, vous savez. Jésus nous a bien parlé du principe de l'évangile, ça commence toujours par une petite graine. Et puis une fois que la graine, elle est semée en terre, alors elle porte du fruit, elle pousse, elle porte du fruit. Il nous est dit, eh bien un grain en donne 60, un autre 100. Et c'est la multiplication, c'est le développement qui se produit. Ça, c'est un principe divin, c'est un principe de Dieu. Et cette femme, donc, craignant Dieu, et parce qu'elle craignait Dieu, parce qu'elle écoutait ce que Paul disait à ce moment-là, et il devait dire des choses intéressantes, forcément. Il devait dire des choses qui concernaient son cœur. Elle devait s'identifier avec ce que Paul disait. Elle disait, mais cet homme, il dit des choses quand même, ça me parle à moi. Comme Jésus parlera un jour à une femme samaritaine, vous savez, dans l'évangile de Jean, et elle s'est sentie tellement concernée parce que Jésus l'a... Il a fait c'était un véritable séisme ce qu'il a fait dans sa vie morale. Vous connaissez, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Et elle a dit, mais cet homme, c'est le Messie, c'est le Christ. Et elle l'a dit à tout le monde, et tout son village, elle a été évangélisée. Ça, c'est extraordinaire, assurément. Donc, elle craignait Dieu, et cette crainte de Dieu, cet intérêt, dans un monde aujourd'hui comme le nôtre, où il y a tant de désinvolture, où il y a tant d'indifférence, alors, elle s'est mise à écouter. Parce qu'il y a écouter. Vous savez ce que je veux dire? On peut écouter sans entendre. On peut entendre sans écouter. On peut entendre d'une oreille et ça sort par l'autre. Pour entendre, bien entendre, cette femme avait écouté avec ses oreilles, mais c'était descendu dans son cœur. Parce que la vie spirituelle et la foi, le royaume de Jésus-Christ, C'est un message qui passe par le cœur. Il passe par notre intelligence, naturellement, si on ne comprend pas ce qui est dit. Mais il descend au fond de notre cœur, et c'est au fond de notre cœur que jaillit à ce moment-là la foi. Une foi qui va prendre des proportions, qui va se développer, et qui va faire de nous, eh bien, de nouvelles créatures, de nouvelles personnes, une nouvelle création, une création morale et spirituelle, avant tout spirituelle. Alors, le Seigneur, à ce moment-là, puisqu'elle écoutait, parce qu'elle craignait Dieu et qu'elle écoutait, les textes sont très beaux à mon sens, le Seigneur lui ouvrit le cœur. Formidable, hein ? Comment ? C'était une opération chirurgicale ? Pas question, hein ? Non, non. Comment peut-on ouvrir son cœur ? Quelle est la puissance qui peut ouvrir le cœur d'un homme ? Quand on sait que, dans le prophète Jérémie, il nous est dit que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout, il est tortueux. Comment peut-on ouvrir le cœur ? Le cœur, il est très souvent fermé. Souvent, les hommes en ont perdu la clé. Mais la clé qui ouvre le cœur, c'est la foi. Pour la passer dans le verrou, et ça s'ouvre. C'est l'expérience que nous en avons fait. Avant d'être ce que nous sommes, on avait le cœur fermé. Si vous voulez, on peut dire le cœur endurci, le cœur indifférent, le cœur étranger, finalement, à toute cette vie-là. Mais c'est encore une grâce de Dieu que Dieu nous a fait, de pouvoir un jour lire la Bible, entendre le témoignage, comme Timothée, vous savez, hein, on en a parlé tout à l'heure, recevoir peut-être une révélation aussi, surnaturelle. C'est arrivé à certains. Comme Paul sur le chemin de Damas, les autres, ça a été différent. Pour moi, ça a été différent. Mais toujours est-il que tout cela, eh bien, ce sont des circonstances et des événements, des situations qui ouvrent le cœur des hommes. Et à ce moment-là, on se dit, mais et si Dieu existait ? Et si Dieu voulait me parler ? Et si Dieu voulait me bénir ? Et si Dieu voulait me pardonner de toutes mes fautes et de toutes mes sottises que j'ai pu commettre ? Et si Dieu voulait me sauver pour l'éternité ? Alors, on multiplie à ce moment-là, parce que c'est le cœur qui s'ouvre. Et un cœur qui s'ouvre, c'est quelque chose de formidable et d'extraordinaire. Vous savez, il y a ce beau proverbe, enfin, c'est pas un proverbe, c'est un passage des psaumes. Quand il dit, quand on tourne les regards vers lui, c'est dans les psaumes, hein, quand on tourne les regards vers lui, vers Dieu, le visage ne se couvre pas de honte, mais il est rayonnant de joie. Moi, j'ai souvent vu, à travers le ministère pastoral, des dizaines et dizaines de gens venir écouter l'Évangile. Et venir peut-être pour la première fois, des gens qui sont rentrés profondément malheureux, profondément tristes, découragés, décontenancés, désorientés, et en entendant le message de l'Évangile, apporté d'une manière très simple comme ce soir, à un moment donné, les visages se détendent. Et c'est comme s'il y avait là vraiment le sourire, et comme les premières lueurs d'un bonheur qui apparaît, et de voir les gens détendus. Et les gens qui ont faim et soif, ils se disent, c'est une parole, c'est un message, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et une vie nouvelle commence. Ça, c'est beau. Le visage ne se couvre pas de honte, mais il est rayonnant de joie. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, parce qu'un cœur s'ouvre. Et un cœur qui s'ouvre, c'est pour être rempli. Un cœur fermé, c'est pour rien recevoir. Un cœur qui s'ouvre, c'est pour être rempli. Et combien Dieu veut remplir les cœurs ? De bonnes choses. Vider ce qui est mauvais, enlever ce qui est sale, ce qui est bien, qui n'est pas à la gloire de Dieu, pour le remplir. Et Dieu, et vous allez voir, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des capacités dans le cœur humain, quand c'est Dieu qui le remplit, des capacités extraordinaires et formidables de pouvoir porter après des choses merveilleuses. Vous savez, un homme qui est pris d'ivresse, un alcoolique, son cœur est rempli de sa passion. Un homme ou une femme ou un jeune qui est dans les chaînes de la drogue, son cœur est rempli aussi de sa passion. Mais ce qui est formidable, c'est que Dieu commence à faire le nettoyage et puis après, il n'a plus envie. Il n'a plus ce goût-là. Il n'a plus envie de mourir. Ouais. Il a envie de vivre quelque chose de neuf, de quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est comme le printemps de la vie. Vous savez, le printemps, là, c'est beau en ce moment. Hein, il y a un peu de vent. Hein, c'est dommage parce que toutes les fleurs, elles disparaissent. Hein, mais c'est beau. Mais c'est toujours la promesse qu'il va y avoir après l'été, avec les fruits, l'automne également, avec tout ce que cela peut représenter. Et après, on recommence un hiver pour revenir au printemps. Eh bien, dans la vie, c'est un petit peu ça. Un cœur qui s'ouvre. C'est merveilleux et formidable. Et Dieu veut ouvrir nos cœurs. Et cette femme, eh bien, craignait Dieu. Elle écoutait et Dieu l'a vue. Elle était attentive, puisque Dieu lui a ouvert le cœur, pour qu'elle soit attentive ce que disait Paul. Et Paul ne disait pas n'importe quoi. Il parlait de Jésus. Il parlait du royaume de Dieu. Il parlait du Sauveur. Il parlait du bonheur qu'il peut y avoir à se rapprocher ou à rentrer en communion avec Dieu. Paul devait parler de Jésus à la croix, qui était mort pour tous les hommes, qui était mort dans leurs péchés, qui était mort dans leur misère. Et en proposant finalement, eh bien, ce que pouvait comporter cette belle interpellation, cet appel, c'est-à-dire, eh bien là, je l'ai dit il y a un instant, cette vie nouvelle qui pouvait tout simplement rentrer, si on la laissait rentrer, pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Alors elle a cru, il s'est passé quelque chose de formidable. Elle a cru. Et ça, c'est encore la faveur de Dieu de pouvoir croire. Il y a des gens, vous les mettez en face de l'évangile, ils diront, non, moi je crois pas. Je ne veux pas croire, parce que quand on ne veut pas, on ne peut pas. Oui. Si on ne veut pas, c'est fermé. Hein. On parlait du cœur fermé, mais notre intelligence, c'est pareil. Alors cette femme, elle a cru. Ça correspondait probablement à ce qu'elle attendait. Et vous savez, je crois qu'il y a autour de nous, et peut-être même certains d'entre nous ce soir, depuis peut-être tout petit, ou peut-être depuis un certain temps dans notre vie, nous sommes comme si nous étions cherchés par Dieu, comme s'il nous poursuivait pour nous faire du bien. Nous avons toujours fui, nous avons toujours pris des chemins de droite et de gauche en disant « Moi, Dieu, ça ne m'intéresse pas ». Et pourtant, Dieu, dans sa grâce, nous a suivis, nous a accompagnés sans qu'on le sache, sans qu'on s'en aperçoive. Il nous a souvent parlé, mais on n'a jamais su l'écouter. Et puis à un moment donné, il a fait naître, en faveur, peut-être à la faveur des circonstances ou des situations difficiles, peut-être de certains drames, de certaines épreuves, de certaines afflictions dans notre vie, où là nous avons petit à petit, d'une manière très furtive, senti le besoin que nous avions besoin de quelqu'un qui ne soit pas un homme, mais qui soit Dieu, pour nous aider. Et là, peut-être nous avons, avec les lumières qui étaient les nôtres, balbutié quelques prières, et puis ça nous a fait du bien, ça nous a réconforté, ça nous a apporté la paix. Puis nous avons été un peu plus loin. Dieu chemine avec nous, il nous accompagne, il ne nous brutalise pas, il ne nous force pas, il respecte notre liberté. Mais sans que nous nous apercevions, il n'est pas loin de nous, hein. Il est même trop près. Jusqu'au moment où il va y avoir des circonstances, où il va y avoir des événements dans notre vie, il va dire « c'est moi ». Est-ce que tu veux que je sois ton sauveur? Est-ce que tu veux que je devienne ton Seigneur? Est-ce que tu veux que tout ce que tu aspires en paix, en bonheur, en vérité, en justice, eh bien moi je peux te le donner aujourd'hui, si tu le veux. » Alors, c'est ce qui s'est passé pour cette femme. Le terrain avait été préparé à l'avance. Pour autant que je m'en souvienne, au moment où j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, j'avais déjà 2 ans de cheminement spirituel, déjà en Hollande, où j'avais lu la parole, où j'avais un ami qui était pasteur, qui m'avait suivi. Mais tout ça, c'était un ensemencement. C'était déjà la graine qui était tombée dans mon cœur, jusqu'au moment, à travers des circonstances difficiles, pénibles, un chagrin, où là, eh bien, Dieu est venu en disant, maintenant, ça y est, je suis là devant toi. Hein. Maintenant, si tu veux marcher avec moi, c'est le moment. Et on accepte quand c'est comme ça. On est tellement malheureux. On est tellement désabusé. On a tellement de peines et de difficultés dans la vie, c'est qu'à ce moment-là, on sait que c'est pas sur la terre qu'il va y avoir la solution, mais la solution, elle est au ciel. Alors on dit oui, et cette femme a dit oui ce jour-là. Lorsqu'elle eut été baptisée, alors et ça vous pouvez le dire, hein, c'est qu'elle a été beaucoup plus loin, c'est que elle n'a pas dit « Seigneur, je te suis, je t'accepte », mais elle a voulu y obéir d'une manière concrète, d'une manière très chrétienne, on pourrait dire, d'une manière comme l'Évangile nous le dit. Hein, dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 28, quand il est dit « Enseignez, faites des nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit et vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et elle a cru. C'était certainement le message de Paul dans cette circonstance. Alors elle a été baptisée, elle et sa famille, et elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Et l'histoire ne se termine pas là. Moi, je vais la terminer maintenant parce qu'autrement, je vais vous garder jusqu'à dimanche. Non, je vais la terminer ici, mais vous pouvez continuer. Parce que c'est pas fini. À Philippe, il va y avoir encore des choses qui vont se passer. C'est même Dieu qui va envoyer Paul et Silas dans une prison pour libérer tous les prisonniers. Ça, c'est extraordinaire, par un tremblement de terre. Ouais. Et un homme qui s'appelle le geôlier de Philippe était prêt à mourir. Il était prêt à se passer son épée à travers le corps en disant « Tout est désespéré, il n'y a plus rien à espérer ». Et Paul lui dit « Arrête, arrête hein. ». Il a demandé de la lumière, il a eu la lumière. Mais pas la lumière qu'il pensait, ce n'était pas une lumière matérielle comme celle-ci, c'était une lumière spirituelle. Et cet homme-là aussi a fait la même expérience. Il a fait venir Paul et Silas dans sa maison. Il les a soignés, ils ont mangé ensemble, il les a baptisés. Et voilà comment le monde est évangélisé. C'est extraordinaire. Mais le Seigneur fait toujours la même chose aujourd'hui. Alors, on voudrait qu'il le fasse par dizaines, par milliers, par millions. Ah, c'est pas comme ça en France. C'est un pays très difficile, la France. Ouais, ouais. On est cartésien, hein. Ça passe par la tête et le cœur est fermé, hein. Mais une chose qui est certaine, c'est que même si ça vient au compte-goutte hein, et que nous sommes des pécheurs, alors des pécheurs, comprenez, hein, on ne pêche pas au filet, pourtant il y a la mer à côté, hein, on pêche à la ligne. Mais s'il y a une idée, s'il y a un Timothée, s'il y a quelques Macédoniens qui passent par là et qui disent « Eh bien moi j'ai besoin de Dieu dans ma vie », mais le Seigneur est là pour leur ouvrir leur cœur, leur ouvrir leur intelligence et leur donner finalement ce dont ils ont besoin. Parce que ce que l'homme a besoin sans qu'il le veuille ou sans qu'il le sache, c'est le salut de Dieu. Et ça, c'est le plus important. Alors que Dieu nous bénisse ce soir à travers cette parole, que Dieu nous donne sa grâce de ne pas nous décourager, mais de regarder au Seigneur et de nous laisser conduire avec souplesse et flexibilité, comme Paul a été empêché à deux reprises, mais Dieu l'a conduit là où il devait aller. Il était à Troas, ensuite il est passé de l'autre côté. Et là, après le chapitre 16, il y a une belle mission qui va se faire. Une belle mission. Il va être un missionnaire extraordinaire pour ouvrir au monde, à un monde nouveau, c'est-à-dire le nôtre, eh bien le message de l'Évangile en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants, si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que l'Évangile, il est beau. Le nom de Jésus est merveilleux. Il est admirable. C'est ce nom-là qui fait du bien aux hommes. Et c'est vrai que lorsque nous regardons notre monde d'aujourd'hui, lorsque nous voyons la misère, lorsque nous voyons la pauvreté, Seigneur, l'indigence morale et spirituelle, combien, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui nous environnent, eh bien, sont prisonniers de toutes ces chaînes d'ignorance, d'obscurantisme, toutes ces choses, Seigneur, qui les rendent profondément malheureux, alors qu'ils pourraient venir à Jésus et trouver cette dimension d'une vie nouvelle, et non seulement pour les choses de la vie présente, mais pour les choses de la vie éternelle. Seigneur, je te demande de nous bénir ce soir. Je te demande de bénir des amis qui ont entendu ta parole, de leur faire du bien, Seigneur, comme toi tu sais le faire. Et puis, Seigneur, je te demande qu'il y ait l'onction de ton Saint-Esprit ce soir au milieu de nous. S'il te plaît, Seigneur, de tout notre cœur, nous t'en prions les uns et les autres avec ferveur. Oui, Seigneur, révèle-toi par ton Saint-Esprit Tout-Puissant. Et nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour ouvrir les intelligences, pour ouvrir les cœurs en particulier. Oui, Seigneur, nous t'en prions et nous comptons sur toi. Et qu'ainsi, Seigneur, en effet, des âmes passent des ténèbres à la lumière, puissent passer, Seigneur, de la mort à la vie, et ainsi recevoir le pardon de leurs péchés dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus, objet de la bonne nouvelle de l'Évangile. Tu nous bénis, Seigneur. Tu nous fais du bien. Et tous, nous voulons dire, au fond de notre cœur, chacun en particulier, oui, Seigneur, je t'accepte comme mon Sauveur et le Seigneur de ma vie, parce que tu es le chemin, parce que tu es la vérité, parce que tu es la vie, et que maintenant nous savons que nul ne vient au Père uniquement que par toi, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen.